Bonjour chers auditeurs de Radio Saint-Ferréol, ici Fafa, et bienvenue dans l'émission Thérapie, vision de psy. Cette émission se donne pour mission d'explorer, à partir de témoignages de professionnels, différentes façons d'exercer le métier de thérapeute. Psychopraticien, psychothérapeute, psychologue clinicien, hypnothérapeute, les titres sont nombreux, divers, et démontrent la multitude de portes d'entrée possibles pour tenter de soigner la psyché humaine. 6 émissions, 6 invités, 6 invités, 6 professionnels, 6 professionnels, 6 pratiques, 6 pratiques, 6 visions de la psy, on a fait le tour. Une émission par mois pour comprendre ce qui caractérise à la fois les pratiques, mais aussi la singularité de chaque thérapeute, en découvrant comment il procède, comment il se positionne, ce qui retient son attention, ce qu'il pense du lien qui se tisse avec son patient, pourquoi il fait ce qu'il fait. Nos invités nous expliqueront comment ils perçoivent leur métier, comment ils le pratiquent au quotidien. Si chaque thérapeute est singulier, chaque patient l'est aussi. Comment le thérapeute chemine-t-il avec cette singularité? Comment on démarre une thérapie? Comment on la termine? Quel est le cadre propre à chaque thérapeute? Quelle place pour le corps, pour les émotions? Autant de questions qui émergeront au cours de l'entretien. Et aujourd'hui, on est avec Léa Buisson, qui est psychopraticienne à Avignon. Elle a son cabinet, elle reçoit des enfants, des ados, des adultes et des couples. Et on va donc faire l'émission avec elle. Bonjour Léa.
Bonjour Agent Fafa.
Léa, est-ce qu'on peut te présenter brièvement en parlant de ton parcours? Tu pratiques depuis quelques années, ça veut dire que tu as été en reconversion?
Oui, en effet, c'est une reconversion qui date de 2020 et j'ai fait une première formation à Aix-en-Provence, une école qui s'appelle EFPP, qui était plutôt d'inspiration analytique. Moi, ce qui me manquait dans ma pratique, avec juste ces deux premières années d'école, c'était vraiment des moyens de m'occuper du trauma et d'aider les patients à dépasser leur trauma. Et puis, il me manquait aussi pas mal de tout l'axe autour du corps. L'école, elle était quand même vraiment assez psychanalytique, donc du coup, le corps n'était pas très présent. Et il me semblait assez important de pouvoir réintégrer le corps et, dans ma pratique. Parce que voilà, je considère qu'on est vraiment... on ne peut pas vraiment décorréler le corps de l'esprit. Enfin, on est, tout est lié. Donc j'avais besoin un peu de billes à ce sujet-là.
Comment ça se passe une première séance quand on vient te voir, Léa? Est-ce que tu as un mode opératoire, entre guillemets, pour accueillir tes patients quand tu les rencontres?
Alors, est-ce que j'ai un mode opératoire? Je crois pas que j'ai de mode opératoire. Pour moi, la première séance, c'est vraiment une rencontre qui est une rencontre qui va vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire que je rencontre cette nouvelle personne et j'essaie de me montrer aussi à elle pour savoir si on va travailler ensemble et si y a cette personne a envie de se projeter aussi. Donc c'est quand même assez les premières séances. Ça dépend, parfois les gens peuvent énormément parler parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire, donc je vais pouvoir les laisser dérouler pas mal de choses, mais toujours en venant quand même vérifier que c'est ok pour eux en fait d'expliquer tout ça. Est-ce que c'est ok pour eux si je leur coupe la parole? Ça évite aussi après que les gens puissent dire j'ai fait que parler pendant une heure, on a fait que m'écouter, le psy il a rien dit. Enfin voilà, toujours de venir vérifier en fait avec la personne est-ce que ce qu'on est en train de faire ensemble, est-ce qu'on est en train de vivre, est-ce que ça correspond à leurs attentes.
Et justement, à la fin de cette première séance, est-ce que le patient il sait où il va? Tu énonces un peu ce qui va se passer pour la suite?
Est-ce qu'il sait où il va? Je pense pas vraiment qu'il sache où il va. Moi, je sais pas non plus. Non, vraiment, au bout d'une première séance où on va, je pense qu'on... On pose quand même pas mal de... C'est un moment où on se rend compte, c'est-à-dire que je peux aussi vraiment répondre aux questions sur comment je fais, quels sont mes outils, laisser vraiment cet espace-là, et puis faire quelques propositions si, effectivement, parfois, au bout d'une heure, il y a déjà énormément de choses qui sont sorties, et je peux avoir des petites idées d'axes que je peux éventuellement proposer en fin de séance.
Oui, alors justement, tu dis parfois le patient peut énormément parler, apporter vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Comment tu trouves ton chemin? Comment tu vas choisir des axes? Comment tu fais le tri dans tout ce que, dans tout ce que peut t'apporter la personne?
En fait, y a, c'est vrai que parfois, on a l'impression que ça peut être un peu confus et aller dans tous les sens, mais je pense que en laissant la personne vraiment dérouler sa pensée, on arrive assez vite aux problématiques.
Par rapport à tout ce que va t'apporter le patient, comment tu trouves les axes et comment tu fais, tu mets des priorités dans ce que tu vas explorer avec lui?
Ah oui, la question des priorités. En fait, je demande, quand la personne arrive et qu'elle a vraiment beaucoup de choses qui la submergent, beaucoup de sujets, je vais venir demander quelle est l'urgence pour elle. Est-ce qu'il y a un sujet particulier là, pour se dire, ok, on commence avec quoi? Même si, voilà, l'idée, c'est évidemment de parcourir tout ce que la personne a besoin de parcourir, mais il faut bien commencer quelque part.
Tu parlais tout à l'heure du fait que voilà, c'est une rencontre entre deux personnes. Est-ce qu'il faut aimer son patient? Est-ce qu'il faut être aimé de son patient pour pouvoir travailler avec lui?
Est-ce qu'il faut aimer son patient? Bah, je pense qu'il faut quand même aimer l'humain pour faire ce métier. Je crois que j'aime mes patients. J'aime, oui. Et que s'il y a justement un endroit de moi qui ne les aime pas ou qui n'a pas envie de les retrouver, il y a plutôt quelque chose à travailler de mon côté en supervision. Parce que ça veut dire que là, dans la relation thérapeutique, il y a quelque chose qui serait pas au bon endroit et qui irait pas dans une bonne direction, en fait, pour l'autre. Et après, est-ce qu'il y a besoin que le patient m'aime? Je pense pas, mais il y a besoin quand même qu'il y ait une forme de confiance et qu'il y ait une forme d'investissement pour que la relation thérapeutique s'instaure, que l'alliance thérapeutique s'instaure et pour pouvoir réussir à transformer des choses ensemble.
Tu parles d'alliance thérapeutique, est-ce que tu peux développer, expliquer un petit peu à nos auditeurs ce qu'on entend derrière le mot, le terme alliance thérapeutique?
Oui, alors alliance thérapeutique... En psychanalyse, il parle de transfert, et moi, un peu avec la dernière formation que j'ai faite, on parle de sécurité relationnelle. Bon, tout ça, pour moi, ça veut dire un peu la même chose, c'est comment on fait équipe ensemble, comment on construit de la confiance dans la relation. Pourquoi c'est important? Parce que, imagine, pour moi, quand on est en thérapie, c'est un peu comme si... on descend dans une grotte en spéléologie, là, et on descend dans une grotte sombre... il fait froid, et en fait, qui c'est qui te descend dans la grotte? T'es en rappel, et au bout de ta corde, et c'est un peu le thérapeute qui tient la corde, quoi. Si en fait, t'as pas confiance dans le thérapeute, tu vas pas y aller dans la grotte. Mmh. Et ce serait bien normal que t'y ailles pas et que t'aies pas envie de descendre, tu vois. Donc, c'est comment, en fait, on instaure assez de sécurité dans le lien pour que la personne, elle se sente prête d'aller visiter des zones un peu obscures d'elle-même, des blessures... des choses difficiles, par définition, on n'a pas très envie d'y aller, quoi.
Ça veut dire que tu vois où tu en es au niveau de cette confiance qui s'instaure avant de pouvoir aller sur certains sujets? Tu sais, quelque chose que tu élabores sur plusieurs séances potentiellement, voire de nombreuses séances?
Oui, tout à fait. Il y a des... En fait, je crois que c'est même la première chose que j'ai en tête et que je peux ressentir du coup assez vite, notamment sur une première séance, de me dire, ah là, est-ce que la sécurité relationnelle, il va falloir la travailler ou pas tant que ça, parce qu'il y en a déjà un peu. Et en fait, les gens, ils sont, voilà, on est tous très différents. Il y a des gens, ils sont sécures, ils sont plus ou moins sécures. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est en fait que finalement, ce qui va se jouer dans la relation thérapeutique, c'est globalement ce qui se joue déjà dans les relations pour le patient à l'extérieur du cabinet. Donc, si moi, je sens qu'en séance, il y a une forme d'insécurité, que la confiance, elle a du mal à se mettre en place, probablement, ça peut raconter quelque chose déjà de comment la personne instaure ses relations à l'extérieur. Ça peut aussi parler d'une autre chose qui est assez importante, c'est les différents traumas thérapeutiques. Ça, c'est aussi des choses que je... Dans la première séance, ou peut-être la deuxième, si la première, il n'y a pas eu le temps, mais de vraiment venir demander aux gens, ok, est-ce que déjà vous avez vu des psys dans votre vie, eu des accompagnements? Qu'est-ce qui vous a convenu? Qu'est-ce qui ne vous a pas convenu? Parce que des gens qui auraient déjà eu plusieurs expériences thérapeutiques, dont certaines qui se sont mal passées, c'est comme si en fait ces expériences-là négatives, elles sont déjà entre nous. Elles sont déjà là. On part déjà avec un espèce de prisme un peu négatif, et j'aime vraiment bien mettre ça à plat tout de suite.
Alors si tu sens que cette sécurité n'est pas encore présente, comment tu fais pour justement tisser cette confiance entre vous ?
Il y a une chose que j'aime bien faire assez rapidement, c'est de venir expérimenter déjà ça dans le corps. C'est-à-dire que quand on parle de sécurité relationnelle, on parle de... C'est pas vraiment quelque chose, c'est plutôt quelque chose, une réponse qui vient du corps. Mm. C'est-à-dire, tu vois, on peut dire, non, mais j'ai super confiance en toi, j'ai 100% confiance en toi, mais en fait, notre corps, il est dans une forme de retenue. Le corps, il a quand même assez raison. C'est un peu de là que ça part. Oui. Donc c'est déjà, ça peut être d'expérimenter dans l'espace. Je demande aux gens, par exemple, ok, où est-ce que vous auriez envie spontanément de vous asseoir dans la pièce là, dans le cabinet ? Et où est-ce que spontanément vous auriez envie de me mettre par rapport à vous ? Du coup, quand on a trouvé une position qui nous va, voilà, moi je le note sur ma feuille et puis après chaque séance, je reprends en fait cette position là. Et juste pour finir, ouais. c'est aussi une position qui... Tu vois, on peut aussi se sentir en sécurité par rapport à un sujet, en face à face. Et quand on va aborder quelque chose de plus traumatique, de plus profond, de plus blessé, le face à face, il passe plus. Donc, je vais aussi beaucoup demander, ok, est-ce que là, on recherche de la sécurité relationnelle autrement ? Est-ce que là, en abordant, à l'idée d'aborder cette thématique, est-ce que vous pensez qu'on se positionne autrement dans l'espace ?
Alors... Tu travailles avec ton chien, Soka, un golden retriever. Qu'est-ce que ça apporte dans la relation avec le patient ?
Même si au début, j'avais très très envie de faire de la médiation animale dans ma pratique, en fait, cette chienne est assez peu intéressée par les gens, globalement.
Je confirme.
Donc, elle est là. Je dirais que vraiment pour les enfants, c'est un super atout. Parce que par exemple, on peut se mettre à. Il y a la brosse du chien qui est dans mon tiroir, donc on se met par exemple à brosser le chien. Et ça permet. On est assis par terre avec l'enfant, il commence à brosser le chien et on se met à discuter. Ça fait quitter un peu ce cadre formel et duel de on est face à face. Tu vois, ça c'est vraiment un très bon liant.
Je passe à un autre sujet qui est. On parlait de la première séance et on va aborder brièvement le sujet de la dernière séance. Est-ce que, quand on démarre une thérapie, on peut attendre un résultat ? Et comment on définit que le résultat est atteint ?
Ça, c'est une bonne question. Pour pouvoir travailler les traumas dans le fond, il faut que la personne soit en sécurité. Tant que cette sécurité-là, elle n'est pas posée, on ne peut pas aller travailler en profondeur. Mmh. Et ça, si ça met un an à ce que d'avoir assez de sécurité, ben en fait, ça met un an. Et pour d'autres personnes, ben, ça va mettre 15 jours, parce qu'en fait, il n'y aura pas les mêmes problèmes d'insécurité. Donc, à l'avance, c'est vraiment strictement impossible de dire, de donner une durée. Mais quand même, je pense que si, par exemple, la personne vient tous les 15 jours pour commencer, je pense qu'au bout de... Au bout de quelques séances, la personne, elle doit quand même sentir si ça lui apporte quelque chose, si ça lui apporte au moins d'autres visions, si elle a des prises de conscience, si entre les séances, il se passe des choses et que ça fait bouger, si des petites choses, de toute façon, tout ce qui est, quand on travaille à cet endroit-là, c'est vraiment des processus, donc ça met parfois du temps, mais... Je pense que quand on commence à travailler avec quelqu'un, je sais pas, mais au bout de 3 mois, on doit quand même pouvoir se dire, bon, est-ce que là, il y a... Ça va quand même dans le bon sens, quoi.
Oui, oui, oui. Alors, une dernière petite question sur le sujet, puis après, on va en faire une petite pause musicale. Le patient arrive potentiellement avec un ou plusieurs sujets, mais potentiellement, toi, tu vas voir que la problématique, elle est ailleurs. Et justement, qu'est-ce qui fait que tu vas plutôt chercher à atteindre un autre objectif que celui qui est fixé par le patient ? Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je vais quand même aller là où le patient il a envie d'aller pour lui. Tu vois, je vais essayer de ne pas avoir trop de souhaits et d'attentes pour l'autre, de l'accompagner là où il est. Oui. Et même si je vois, moi, des choses, Si la personne, elle vient avec une problématique, je sais pas, entre guillemets, plus légère, et que je vois qu'en dessous, il y a d'autres choses, en fait, c'est que pour l'instant, il n'y a que ça qu'elle voit. Et que on va aller là-dessus, et puis en continuant à creuser, on arrivera peut-être à autre chose, tu vois. Et c'est vrai que souvent, ce qui se passe, les gens, ils arrivent en thérapie avec un sujet, et en fait, très vite, quand c'est un sujet un peu comme ça, superficiel, oui, on arrive très vite à parler d'autres choses, et le premier sujet, on n'entend plus parler. Je me rappelle de cette patiente qui vient parce qu'elle voudrait réussir à passer son permis, elle n'arrive pas à s'inscrire à passer son permis. Ben, en fait, on a parlé de ça la première séance, et après, on n'a plus jamais parlé du permis. Même si de temps en temps, je reposais la question, mais c'était pas le sujet, quoi.
Ouais. Ok. Merci Léa. Allez, on fait une petite pause musicale.
Je vois apparaître des drôles de formes, des formes à femmes, des formes de crâne, des formes difformes pour les faire disparaître. Je n'ai pas la formule, si ce n'est l'angoisse, la peur. Mais dans mon esprit, on est à deux stupeurs. En plus de ce que je vois, j'entends des voix qui plusieurs fois ma foi. Ces voix me disent des horreurs. Schizophrène, d'après les psys, mon esprit fait des crises d'épilepsie. Dissocié est ma personnalité, mais je n'ai jamais fait preuve de brutalité. Des fois, je bloque deux heures devant le miroir. Mais quand il voit un troisième œil, un bras en moins, du sang, il faut tout ce temps pour y croire. Il paraît que c'est de la dysmorphophobie. Mon esprit est décomposé, donc mon corps aussi. Tout ça, c'est trop médical. Ouais, j'ai pas tout compris. À part que je suis fou et dans la merde. Je sombre dans la folie, traumatisé par ma vie, je sens m'éloigner. Je sombre dans la folie, j'ai le cancer de l'esprit, je sens m'éloigner. Je sombre dans la folie, traumatisé par ma vie, je sens m'éloigner. Je sombre dans la folie, j'ai le cancer de l'esprit. Ça va pas en s'arrangeant, j'ai des sensations sur les membres. Pourquoi j'ai le sentiment que les gens me touchent alors qu'il y a personne dans ma chambre? Je tremble de peur, de mes pores, la sueur s'évapore. Mais la peur s'évapore en pleurs, c'est pas de l'or de leur ruée, alors l'odeur de la mort au détour de l'horreur de mes visions, hallucinations, cauchemardesques. Donc la question se pose, est-ce que je peux devenir fou comme Guy Georges ou presque? Les voix me guident, m'ordonnent, me speed, me pousserait-elle au geste? La peur d'être un psychopathe, un petit zeste, ou est-ce que c'est Satan qui me teste? La peste psychique me pousse au délire mystique, capable de tout délire, psychédélique, fantastique, psychopathique, c'est le moins apathique que l'on puisse dire. Car les voix osent tout me dire, je me dois juste leur interdire de faire de moi leur esclave au point de tuer les gens avec un petit sourire.
Je sombre dans la folie, traumatisé par ma vie, je sens m'éloigner.
Schizophrène, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis un chevalier de bronze et je poursuis mon combat.
Je sombre dans la folie, j'ai le cancer de l'esprit, je sens m'éloigner.
Je vois des choses dans des voix venant du royaume de Vesou, c'est la voix d'Athéna.
Je sombre dans la folie, traumatisé par ma vie, je sens m'éloigner.
Schizophrène, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis un chevalier de bronze et je poursuis mon combat.
Je sombre dans la folie, j'ai le cancer de l'esprit.
C'était Camini avec le morceau Schizophrène. On va parler du cadre. Quelle importance a le cadre dans la relation thérapeutique?
Le cadre, pour moi, c'est un peu l'ensemble de règles qui font qui vont venir créer de la sécurité, quoi. Du coup, je pense que c'est... Enfin, en tout cas, dans ma pratique, je le mentionne à l'oral. Et par écrit à la prise de rendez-vous, par exemple, quand la personne prend rendez-vous, voilà, j'ai un cadre d'annulation, là maintenant, que j'ai posé, qui est de dire qu'on peut annuler les séances 48 heures avant sans problème, mais dans les 48 heures avant, si ce n'est pas un cas de force majeure, la séance elle est due. Voilà, ça c'est par exemple un élément de cadre qui était important pour moi de poser, pour essayer de... voilà, pour moi aussi, en fait, être sécure en fait, dans mon engagement avec les gens et dans ma pratique.
Ça joue sur l'investissement qu'a le patient dans sa thérapie.
Ben oui, en fait, je le redis d'ailleurs en fin de première séance de dire que comme pour moi, c'est vraiment la relation qui est au centre du travail thérapeutique. Ça va dans les deux sens et que effectivement, on n'est pas, c'est pas complètement horizontal. Je suis bien d'accord avec ça, mais moi, j'ai aussi de l'investissement dans la relation avec le patient, dans ce que j'ai envie de développer comme outil pour l'accompagner, et que en fait, se faire mettre des lapins le jour même ou la veille, c'est pas agréable, quoi, et que ça peut altérer la relation thérapeutique. Quelqu'un qui annulerait toujours au dernier moment, moi je suis humaine en fait, hein, à la troisième fois j'ai vachement moins envie de le voir, et donc c'est important de mettre cette forme de réciprocité dans l'engagement, en tout cas.
Oui. Et donc là tu parles du cadre que tu mets hors séance, et pendant la séance il y a des choses qui sont importantes pour toi?
Pendant la séance, je dis que ici tout peut être dit. Ça, c'est vraiment important. Que les limites, en fait, c'est la violence physique et la sexualité. Voilà, ça c'est.
C'est-à-dire?
Pas de violence physique et pas de sexualité. Ça, c'est le cadre. Et que tout le reste, en fait, c'est OK. Enfin, toutes les émotions, on peut les vivre, on peut tout dire, on peut. Voilà.
On va maintenant écouter un premier audio d'un jeune homme que je questionne sur le trauma. Ça veut dire quoi pour toi le trauma, le traumatisme, cette notion?
C'est une bonne question, parce que c'est un terme un peu générique, un peu galvaudé, qu'on utilise un peu à tort et à travers. Mais je dirais que pour moi, c'est ce qui intimement nous ramène à l'instabilité de notre être.
Tu as en tête, toi, des traumatismes que tu as vécu?
C'est toute la question de les mettre à jour et de les verbaliser. Je pense que les manifestations sont plus nombreuses que nos occasions ou notre volonté de les verbaliser. Pour autant, je dirais que évidemment qu'il y en a. Mais je ne sais pas si je peux en identifier autant qu'il y en a. Et leurs manifestations, ça peut être des douleurs musculaires, des tremblements. Voilà.
Ce serait quoi pour toi une façon de soigner ces traumatismes qui se manifestent dans ta vie?
Moi, je passe du temps avec ma fille. Et je pense que de passer du temps avec un enfant, ça nous ramène à la même période, là où peut-être se fondent tous ces traumas.
Il y a des zones qui restent encore non verbalisées pour toi?
Oui, il y a des zones non verbalisées et je pense que c'est la nature même des traumas de devoir d'avoir la patience de les verbaliser toute sa vie. Parce que des traumas, il y en a partout sur le chemin. Donc, quand on verbalise certains, on pense en avoir fini, mais il y en a d'autres qui arrivent.
Comment tu réagirais à chaud sur ce que tu viens d'entendre, Léa?
La première chose que j'ai envie de dire, c'est quand il parle de sa fille et de ce que ça lui fait d'être en contact avec sa fille, j'ai l'impression que c'est ça aussi qui se passe. Effectivement, quand on fait des enfants, est-ce qu'on revit ce qu'on revit quand on fait des enfants? À la fois, on vit cette nouvelle vie de parents, et je pense qu'on revit aussi l'âge qu'on avait, l'âge qu'on avait au moment où nos enfants ont cet âge-là. Et que c'est aussi pour ça que parfois, ça peut être très confrontant, des choses dans la parentalité, parce que ça vient nous faire revivre des choses de notre propre enfance. Et ce témoignage, Enfin, ce qu'il raconte, c'est qu'il a l'air de dire que c'est aussi à cet endroit qu'il peut se soigner, ou en tout cas prendre soin de lui en prenant soin de sa fille. Je trouve ça assez beau.
Et il parle de l'impact sur le corps, des douleurs musculaires, etc. Ça nous met un peu le sujet de la place du corps dans la thérapie. Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu le prends en compte ?
Une émotion ou un choc émotionnel, en fait, si on ne l'a pas traversé, si on ne l'a pas digéré, si on ne l'a pas processé, il y a quelque chose qui reste à l'intérieur, qui n'a pas été processé. Et quand ça reste, au bout d'un moment, ça s'exprime d'une autre manière et le corps, il est un peu là pour venir exprimer les choses qu'on n'a pas réussi peut-être à verbaliser ou à dépasser autrement. Et c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir plein de la somatisation.
Par rapport aux émotions qui surgissent pendant les séances, est-ce que tu travailles avec le corps à ce moment-là ?
En fait, c'est vraiment toujours hyper intéressant de revenir au corps. Aussi, surtout, parfois pour des personnes qui sont très dans l'intellectualisation, dans l'analyse, à chaque fois en fait, qu'on a envie de réfléchir à nos symptômes, de comprendre, il y a, pour moi, il y a une petite lumière qui s'allume à l'intérieur et qui me dit « Ah, c'est une forme de fuite du ressenti ». C'est-à-dire, c'est vachement plus facile à un certain niveau de venir essayer de comprendre et de faire marcher sa tête plutôt que juste de rester avec l'émotion qui est inconfortable. Et du coup, j'utilise différents outils pour essayer d'accompagner les gens à cet endroit-là, notamment quelque chose qui s'appelle l'intégration sensorielle.
Okay.
Où en fait la personne, au moment où elle raconte l'événement ou qui la dérange ou qui est difficile et où il y a quelque chose de physique en elle, il va y avoir un truc qui se comprime dans la poitrine ou une boule dans le ventre ou une boule dans la gorge. En fait, quand on est vraiment en contact avec nos émotions, on peut sentir où elles sont dans notre corps.
Ouais.
C'est où ?
Ouais, ouais.
C'est la gorge ? C'est le ventre ? Est-ce que tes muscles ils se tendent ? Donc déjà, de venir poser cette question-là, quand la personne ressent une émotion, dire c'est où dans le corps ? Donc là, ça fait déjà un lien. Et après, par exemple, dans ce protocole-là d'intégration sensorielle, ce que je propose après, c'est vraiment que on quitte complètement la sphère mentale, donc de la situation qui a amené ces ressentis dans le corps. On reste que avec le corps. Et là, j'accompagne la personne à fermer les yeux et à rester en contact avec ses ressentis et juste à me décrire de quelle manière, en fait, ça évolue. Si on reste juste avec ça, en fait, ça ne reste pas. L'émotion ne reste pas. La boule dans le ventre, elle est là. Mais si on ne s'attache que à l'observer et que à lui laisser faire sa traversée, en fait, elle évolue. Moi, j'aide là à ce que la personne elle reste connectée à son ressenti et pas à repenser à plein de choses. Et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gêne dans le corps. Et en fait, on arrive à ça. Très bien, on peut très bien arriver à ça en une séance.
Ouais. Alors, tu parlais d'un outil que tu utilises. On va écouter une deuxième interview d'une dame. Et puis, on continuera sur cette question. Est-ce que la notion de traumatisme fait du sens pour vous ? Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?
Ben, bien sûr, c'est être choqué et rendre quelqu'un... sans réflexion sur le moment.
Vous diriez que vous avez vécu un ou des traumatismes dans votre vie ?
Oh là là ! Traumatisme ! Je vais avoir 90 ans. Traumatisme de la guerre, des bombardements, la peur des sirènes. Quand j'entendais les sirènes, j'avais quel âge ? J'avais 7 ans ou 8 ans. C'était, je ne savais pas que ça s'appelait traumatisme, mais c'était un traumatisme. Une peur, tout d'un coup, on se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer.
Et est-ce qu'on peut en guérir ?
On peut peut-être guérir de tout, si on essaie, si on a la volonté de se dire... Enfin non, c'est difficile pour le traumatisme, parce qu'en effet, s'il y a quelque chose qui vous traumatise, sur le moment, il faut peut-être du temps après pour... Oui, on peut en guérir, mais c'est difficile... C'est une réponse difficile, ça dépend ce qui vous arrive.
Et pour en guérir, est-ce que vous voyez des, des solutions ou est-ce que c'est le temps qui fait le travail ?
Moi, je dirais que c'est plus le temps qui fait le travail, oui. Oui, c'est plus le temps parce que je ne peux pas vous répondre à des solutions. Je ne sais pas quel est le traumatisme qui peut arriver.
Mais sur les sujets des traumatismes que vous avez vécu.
Juste une petite pause. Après, cette dame me parle d'un traumatisme qu'elle a vécu, mais elle ne voulait pas que ce soit entendu à la radio. Donc, on va continuer avec la deuxième partie, après qu'elle ait parlé de ça.
Pas si on peut appeler ça un traumatisme ou un choc. Je ne sais pas quelle est la différence, d'ailleurs.
Et si on appelait ça un traumatisme, alors ?
Eh bien, si on appelle ça un traumatisme, je dirais que j'ai continué à vivre parce que j'avais 4 enfants et qu'il fallait avancer et que je ne sais pas si j'ai soigné mon traumatisme parce que c'est toujours...
La blessure est toujours là ?
Bien sûr. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça se soigne quand même parce que la vie a apporté aussi... Voilà, je ne sais pas comment vous dire, c'est compliqué, hein. Compliqué vos questions.
Encore une dernière question. Est-ce que vous en parlez de ces choses-là avec des gens autour de vous, des professionnels ?
Non. Non, rarement. Rarement. Non, je n'ai pas vu de psy, Non. D'abord, ça ne se faisait pas à l'époque. Je regrette un peu parce que peut-être que mes enfants en auraient eu besoin. Mais non. En parler, non. Me changer les idées, oui. Ouais. Mais en parler, non. Vaut mieux avancer que garder... Voilà.
Merci beaucoup.
Au tout début, elle évoque le traumatisme, le fait d'être en fait choquée par une situation.
Oui, je trouve ça beau ce qu'elle dit. C'est quoi le trauma ? Elle dit rendre quelqu'un sans réflexion sur le moment. Je trouve que ça parle bien de ce truc-là, d'une forme de sidération.
Ouais.
On est bloqué,
oui.
on peut plus agir, on peut plus rien faire.
Ouais. On écoutera d'ailleurs un extrait de Muriel Salmona tout à l'heure sur le sujet. Aujourd'hui, il y a des outils concrets pour avancer sur différentes thématiques. Est-ce qu'il y en a que tu utilises, dont tu voudrais nous parler ?
Moi, ma pratique, elle se définit un peu comme intégrative. C'est un peu un mot, un peu un gros mot comme ça, qui raconte que justement, c'est une façon d'intégrer différents outils en fonction de ce que moi, je peux apprendre, de où je me forme, et de faire aussi en fonction de la personne qui est en face de moi.
Ouais.
C'est-à-dire là où elle a envie d'aller, qu'est-ce qui est OK pour elle de faire, qu'est-ce que pour le moment, il n'y a pas accès, et de trouver d'autres façons d'arriver au même endroit. Mais... Donc j'aime bien, enfin en tout cas dans ce truc d'intégratif, pour moi c'est assez créatif, c'est assez libre et en fait c'est aussi hyper évolutif. Je pense qu'il y a 2 ans, je ne faisais pas les mêmes choses que je fais maintenant et peut-être dans 2 ans, ce sera encore des choses différentes.
Et sur le sujet du trauma spécifiquement, il y a des techniques
Oui, alors sur le sujet du trauma, donc moi j'utilise de l'EMDR. Vous voyez ce que c'est ?
Tu peux nous décrire ?
Le MDR, c'est vraiment un outil de désensibilisation du trauma. Alors, je peux vous faire l'acronyme en anglais, mais ça va vous faire rigoler avec mon super accent. EMDR, c'est Eyes Movement Desensitization Rotation. En fait, quand la nuit, spontanément, nos globes oculaires, ils font ça, du droite-gauche, 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 pour venir un peu s'occuper et ranger toutes les informations en fait, qu'on a vécues dans la journée. Et donc ce mouvement-là, on s'en rend pas compte, mais il est fait. Le droite-gauche, droite-gauche, ça implique l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, et ça vient ranger les souvenirs à des endroits dans notre cerveau. Et en fait, quand on a vécu un choc émotionnel, ou quelque chose de traumatique, ce rangement, il n'a pas pu se faire. Et donc, du coup, on a toujours là ce souvenir actif qui n'est pas au bon endroit. Et le MDR, c'est une façon, en fait, de venir retraiter ce souvenir-là de manière un peu mécanique, donc avec ce mouvement de globe oculaire, pour aller le ranger au bon endroit. Donc ça, c'est quand même un outil qui fonctionne assez bien si y a assez de sécurité relationnelle qui peut prendre un peu de temps à être bâti au début, comme je l'expliquais tout à l'heure.
Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voudrais nous parler ? Sinon,
écouter. On va faire une petite pause musicale.
Non, oui, juste aussi ce qu'elle disait, cette dame. Elle disait le temps. C'est le temps qui règle les trucs, qui règle le temps qui passe. Oui. Et du coup, ça me questionne. Je pense que le temps, c'est hyper important. Il y a vraiment des choses, notamment sur les processus de deuil, où je sens vraiment que il y a rien que je puisse proposer dans tous mes outils qui puisse remplacer le temps. Et c'est aussi ça. Enfin, qu'on peut raconter aussi sur un processus thérapeutique, c'est qu'en fait, ça met du temps. Quand en fait, si on commence une thérapie, je ne sais pas, on a 30 ou 40 ans, ça veut dire que ça fait 30 ou 40 ans qu'on fonctionne d'une certaine manière, qu'on a tous nos mécanismes de défense qui se sont mis en place, qui sont bien en place depuis tout ce temps-là. Et donc, bah, en fait, ça prend du temps de venir déconstruire tout ça. Et donc, à la fois, le temps, je trouve que c'est une donnée hyper importante à prendre en compte. Après, je ne pense pas que le temps puisse tout régler. Et que voilà, je trouve ça bien qu'aujourd'hui on puisse s'autoriser à venir demander de l'aide à des endroits où on sent qu'on n'arrive pas tout seul à régler les choses, quoi.
C'est la pause musicale.
Thank you.
C'était Pearl Jam avec le titre Tremor Christ. On va écouter maintenant un extrait de Muriel Salmona, qui est psychiatre. Elle est spécialisée en psychotraumatologie et en victimologie. Elle est souvent sollicitée par les institutions sur les thématiques des violences sexuelles, du harcèlement, de la prostitution. Elle a fait récemment un podcast sur France Culture qui s'appelle « Trauma et violences sexuelles, de l'agression à la réparation ». Et on l'écoute tout de suite.
Le point de départ, c'est justement la sidération. C'est-à-dire que, en fait, face à des violences qui sont terrorisantes, incompréhensibles, impensables, qui n'ont aucun sens, la personne en face ne peut pas intégrer ces violences. Elles font effraction, en fait, dans sa capacité de les penser. Et il va y avoir ce qu'on appelle une paralysie des fonctions supérieures. C'est-à-dire que tout ce qui, en fait, normalement devrait permettre d'agir, de réagir, d'analyser les violences, va être bloqué. Et les personnes vont se retrouver vraiment dans une situation où elles vont pas pouvoir parler, crier, se défendre sur le plan psychique, mais aussi sur le plan moteur, elles vont être aussi immobilisées. Et on sait que, par exemple, pour les violences sexuelles, plus de 70% des personnes qui subissent des violences sexuelles vont avoir cet état de sidération. Il est d'autant plus fréquent que la personne se retrouve piégée avec des situations complètement terrorisante et complètement aussi impensable, enfin qu'on ne peut pas comprendre, par exemple, comme un proche, comme un conjoint qui va exercer ces violences, et ça va faire basculer la personne dans un état, effectivement, de paralysie psychique et de paralysie motrice. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sidération, et on le voit, on peut le voir sur les IRM, on voit effectivement les fonctions supérieures qui vont être bloquées. Alors c'est souvent ce qu'on peut reprocher aux victimes, c'est pourquoi n'avez-vous pas crié, pourquoi ne vous êtes-vous pas défendu. En fait, c'est tout à fait malheureusement normal par rapport aux violences qui sont exercées. Et plus l'agresseur va avoir une stratégie où il va être terrorisant, où il va être impressionnant, où il va en fait tenir des propos ou avoir des comportements totalement incohérents, plus la sidération va être importante. Et c'est à partir de cette sidération que va se mettre en place une cascade de conséquences qui vont avoir, en fait, qui vont être extrêmement traumatisantes pour la personne et vont avoir un impact sur sa santé à long terme, que ce soit la santé mentale et la santé physique.
Voilà, alors, elle poursuit sur tout le sujet du trauma et on pourrait l'écouter pendant des heures, mais on va s'arrêter là. Et Léa, je voudrais te poser la question de, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on a un nouvel acronyme qui s'appelle TPV, pour théorie polyvagale.
Oui, c'est ça.
Ok, je t'écoute.
Oui, la théorie polyvagale, en fait, c'est comment fonctionne notre système nerveux autonome. En fait, notre système nerveux autonome, c'est en nous, un peu notre alarme interne, qui vient nous dire quand est-ce qu'on est en sécurité et quand est-ce qu'on n'est pas en sécurité. Et depuis qu'on est petit, même depuis qu'on est dans le ventre de notre mère, notre système nerveux, c'est vraiment quelque chose de très archaïque au niveau du système. C'est avant le cognitif, avant l'émotionnel, c'est vraiment un truc animal qui retient toutes les fois où on a été en insécurité et on grandit. Et en fait, ce qui arrive souvent quand on a vécu du traumatisme, en fait, c'est que notre système d'alarme interne, il est un peu dérégulé. C'est-à-dire qu'il peut se manifester, c'est-à-dire sonner la sonnette d'alarme, alors que, a priori, il n'y a pas de grand danger. C'est ce qui peut se passer quand on a vécu des agressions sexuelles, on va se balader dans la rue, il y a quelque chose qui... Voilà, ou même on est entouré d'amis, on n'est pas seul, où il n'y a pas, a priori, pas de danger, et on peut quand même éprouver... éprouver du danger. Et du coup, c'est important en fait, de venir comprendre, de travailler avec ce système nerveux-là pour le re-réguler, c'est-à-dire venir lui dire, bon, là, ok, là tu te déclenches, soit tu te déclenches en mode sympathique, c'est-à-dire que ça va venir augmenter notre énergie comme un peu un mode de survie. L'image qu'on peut donner à ça, c'est la gazelle qui se fait courir après par le lion. Là, elle a un danger pour sa survie, donc elle se met à courir très vite. Ça, chez nous, chez les êtres humains, ça va être des symptômes d'hyperactivité, d'anxiété, des migraines. Où, voilà, il y a quelque chose à cet endroit-là. On n'a pas le choix. On n'est pas en train de décider de se mettre dans cette activité-là. On est, c'est un peu malgré nous. Ça, c'est le premier mode insécure, donc le sympathique. Et puis, il y a le deuxième mode insécure qui est le dorsal, qui correspondrait plutôt à la gazelle là, qui se fait attraper par le lion. Et donc, il la plaque au sol. Là, ce que son système nerveux est en train de vivre, c'est un danger de mort imminent qu'elle cherche en fait à gérer par l'immobilité. Mmh. Elle fait la morte. Et ça, c'est ce que Muriel Salmona explique bien là, quand elle parle de la sidération, de la dissociation. C'est un endroit où la violence, elle est telle que nerveusement, il y a un truc qui disjoncte.
Oui.
Parce que en fait, c'est trop violent. On pourrait pas. C'est vraiment comme tout un système électrique qui disjoncte. Et donc, il s'agit, en tout cas...
L'enjeu, oui. C'est d'identifier ce qui est en train de se passer dans son propre corps pour comprendre que quelque chose s'est activé et pour pouvoir agir dessus.
Oui, tout à fait.
Et de quelle façon?
Ben, donc, tu vois, donc, cet état de la gazelle plaquée au sol, là, ça s'appelle le dorsal, donc, oui. Qui est vraiment donc, l'état du trauma profond, de la dissociation, qui est l'endroit où on n'a rien pu faire. Où on a été, ouais. On a rien pu faire. Là, il s'agit, quand cet état-là se vit en séance, parce que c'est possible, parfois, il y a des gens, ils arrivent, ils sont hyperactifs, ils ont les pieds qui bougent dans tous les sens, les mains qui mangent dans tous les sens, donc là, on est plutôt dans la version sympathique. Ouais. Et puis parfois, je sens qu'ils sont dissociés, et donc ils ne sont pas vraiment là. Et pourquoi, en fait, c'est hyper important de réguler le système nerveux? C'est parce que quand on est dans ces deux modes insécures, le lien n'est pas possible.
Ouais.
On l'imagine bien, une gazelle qui est en train de se faire courir après par un lion, elle n'est pas en lien. Et de la même manière quand elle est plaquée au sol. Et comme l'endroit de la thérapie et l'endroit du soin, c'est le lien, en tout cas dans ma pratique, il faut absolument pouvoir venir réguler ce système nerveux pour lui dire « Ok, est-ce que là, le système nerveux, on pourrait faire quelque chose pour qu'il se rende compte que dans cet espace du cabinet, en fait, il y a de la sécurité ?» Venir lui montrer en fait que là, ce que le corps est en train de vivre, c'est une forme d'insécurité. Mais en fait, qu'est-ce que le corps pourrait faire là pour se prouver à lui-même qu'en fait, c'est sécure?
Et alors, par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait trouver comme solution? Ouais. Qu'est-ce qu'on a?
Eh bien, qu'est-ce qu'on a? Je vais du coup demander à la personne de quoi son corps a besoin. Quel est le mouvement nerveux que son corps a besoin de faire? Parce qu'on ne peut pas réguler un système nerveux avec des mots. Tu vois, c'est comme si, imagine, t'es hyper anxieuse, t'es en hyperactivité, et moi je te dis, non mais ça sert à rien d'être anxieuse, Fafa.
Ça va aller.
Arrête d'être hyperactive, pose-toi. Non, mais ça ne marche pas. Parce que c'est pas du tout à ce niveau-là que ça se passe. Donc il faut utiliser les outils du système nerveux. Ouais. Lui, ce dont il a besoin de corps, il a besoin de mouvement, il a besoin d'action. Donc, par exemple, un patient dont j'aurais reflété un état plutôt donc de sympathique, je lui demandais de quoi son corps a besoin maintenant. Est-ce qu'il aurait plus besoin de fuir ou est-ce qu'il aurait plus besoin de combattre? C'est un peu nos deux modes du sympathique. Quand je donne l'exemple de la gazelle, elle ne peut que fuir face à un lion.
Tout mais
si on imaginait deux lions, ils pourraient ou décider de battre, de combattre ou de partir. Oui. Okay. Et donc là, voilà, la personne essaie de sentir. Si elle n'arrive pas à sentir, j'essaie de sentir pour elle. Enfin, on le fait ensemble. Et quand la personne va pouvoir dire « Non, mais là, je sens que là, c'est fuir. » Et bien, en fait, on fuit. Donc là, on ouvre la porte du cabinet et on sort et on va courir. Mais on le joue, quoi. Donc, ça amène à faire des trucs dans le cabinet, dans le sein du cabinet, un peu bizarres.
Oui.
Que par exemple, je ne faisais pas du tout au début de ma pratique, que j'ai mis un peu de temps à réussir à intégrer parce que sur le coup, ça peut paraître un peu étrange, mais vraiment, c'est très intéressant. Et après, on revient et surtout, on essaie de sentir si dans le corps, ça a changé. Ça, si c'était la bonne régulation, normalement, il y a quelque chose qui s'apaise dans le corps à ce moment-là. Si ce n'était pas la bonne, c'est que ce n'était pas fuir, c'est que c'était combattre. Donc, on combat. Et on combat, là, on peut crier, on peut taper, enfin, on peut imaginer plein de trucs.
Donc, j'imagine que tu ne passes pas à la suite tant que tu n'as pas réussi à avancer là-dessus.
Non, on ne peut pas.
On ne peut pas.
On ne peut pas. Vraiment, c'est tu vois, les pour moi, la base de pouvoir venir travailler le trauma, c'est ces deux choses. C'est la sécurité relationnelle à deux et la sécurité du propre système de la personne. Si en fait là, s'il n'y a pas de sécurité dans la relation, la personne, elle ne va pas descendre dans la grotte avec moi. Et si le système de la personne est en train de lui dire, là, je suis en cabinet avec cette psy, et en fait, ce que mon corps il est en train de dire, je suis en danger pour ma survie ou en danger de mort imminent, on ne peut pas travailler. Mmh. On ne peut pas créer du lien à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça que le MDR arrive une fois que ces éléments-là, ils sont déjà posés. Mmh. Et que ça peut mettre un peu de temps.
Et est-ce que ça, potentiellement, à chaque séance, il y a de nouveau quelque chose à faire ? Ou tu as l'impression qu'une fois que c'est réglé, c'est vraiment réglé ?
C'est une bonne question, mais parce que je pense que la sécurité relationnelle peut toujours s'affiner, mais quand on commence à la construire, c'est vrai qu'on peut perdre des points et en regagner, mais oui, on peut toujours refaire des choses à chaque séance. Et normalement, l'idée d'un système nerveux qu'on régule, c'est que non seulement on le régule sur le coup, mais à chaque fois qu'on vient le réguler, on vient aussi le réparer. Mmh. C'est-à-dire que plus on régule notre système nerveux, moins il se déclenche à des moments où il ne devrait pas se déclencher. Donc normalement, plus on le fait, moins on a besoin de le faire.
Et qu'est-ce que ça implique, le fait que... Donc j'imagine que tu expliques un peu tout ça à tes patients. Donc ça veut dire qu'ils deviennent peut-être autonomes aussi là-dessus, à prendre conscience dans d'autres moments que dans le cabinet. Est-ce que est-ce qu'il y a des choses qui avancent hors cabinet avec ça ?
Ben, en tout cas, en ce qui concerne vraiment la théorie polyvagale, là, je propose aussi beaucoup qu'ils puissent faire ça chez eux, ouais. Qu'ils puissent sentir. Parce que, en fait, c'est de la régulation, on peut la faire soi-même. Ouais. D'ailleurs, moi, je la fais moi-même. C'est-à-dire que moi, je dois aussi m'assurer de ma régulation nerveuse avant d'être en lien avec la personne. Moi aussi, je peux être en sympathique. Moi aussi, je peux être en dorsale.
Tout à fait, ouais.
Par rapport à mes zones de vulnérabilité ou par rapport à parfois ce que va raconter le patient en face et là, ça vient faire écho à des choses. Enfin, donc, moi, je m'occupe aussi de ma propre régulation. Donc, évidemment, en faisant ça déjà ensemble, après, ça invite aussi la personne à avoir cet outil pour elle et à l'emmener avec elle en dehors des séances.
Merci Léa. On va s'arrêter là puisque ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. Est-ce que tu as une chose qui te vient que tu voudrais ajouter avant que ça se termine ?
Juste dire que en ce moment à Avignon, on est en train de monter un projet avec un collectif autour de la question de l'inceste, voilà, qui me tient particulièrement à cœur. Et voilà, l'inceste, c'est quand même le dernier gros tabou. Les violences faites aux enfants, voilà, qu'il faut vraiment aborder parce que ça fait vraiment énormément de mal. Moi, je reçois vraiment des gens, la grande majorité des gens que je reçois, en fait, ils ont vécu du traumatisme sexuel, que ce soit dans le cadre de la famille ou non. Mais en fait, c'est très, très, très répandu. Les chiffres, on les connaît. L'inceste, c'est 3 enfants par classe. Hein. Donc, voilà, on est plusieurs à s'être dit que ces violences intrafamiliales-là, en fait, un endroit pour essayer de travailler dessus, c'est le milieu scolaire. Et du coup, on est en train de monter un projet avec du théâtre forum, avec aussi une pièce de théâtre qui parle de ce sujet-là, de venir sensibiliser en fait les jeunes au sujet et aussi de sensibiliser les équipes encadrantes. Parce qu'on dit qu'il faut que les enfants parlent, mais il faut aussi que les adultes puissent écouter et entendre. Et c'est ça, je pense, la plus grosse difficulté parce que les enfants victimes parlent quasiment tous d'une certaine manière, mais ils sont souvent pas entendus. Ouais. Voilà, donc c'est un sujet qu'on est en train de... un projet qu'on est en train de monter à Avignon.
Il y a des dates pour les événements.
Là, on est en train de prendre contact avec les établissements pour mettre tout ça en place pour la rentrée scolaire prochaine, donc de septembre 2026. Et on cherche des fonds aussi. Parce que voilà, en fait, monter des projets comme ça, c'est il faut former, un peu sensibiliser les encadrants à cette question pour qu'ils se sentent armés à pouvoir recevoir ces paroles-là, pour que les enfants eux-mêmes se sentent de pouvoir parler. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Donc si jamais il y a un gros financeur qui nous écoute là,
<C'est le moment.
rire> un mécène, eh ben, il peut contacter Radio
Saint-Ferréol. D'ailleurs, merci à Radio Saint-Ferréol de nous avoir accueillis dans son studio. On était aujourd'hui avec Léa Buisson, qui est donc psychopraticienne à Avignon. On la remercie pour tout cet échange. On remercie aussi Laure qui était à la technique. Et moi, c'était Agent Fafa en mission d'exploration de la psyché humaine.
Mr. Kirk, Dexter's in school.
I'm afraid he's not, Miss Fishmore. Dexter's truancy problem is way out of hand. The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system.
Oh, Mr. Kirk, I'm as upset as you to learn Dexter's truancy. But surely expulsion is not the answer.
I'm afraid expulsion is the only answer. It's the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane.
That boy needs therapy.
You're psychosomatic.
That boy needs therapy.
You lie down on the couch.
What does that mean?
You're a nut. You're crazy in the coconut.
What does that mean?
That boy needs therapy.
I'm gonna kill you.
That boy needs therapy.
Brannigazoo, let's have a chew. Now when I count three.
That boy needs therapy.
He was white as a sheep.
And he also made false teeth.
Avalanche is above, business continues below.
Did I ever tell you the story about
cowboys and midgets and Indians and frontier psychiatry?
My whole life felt strangely hypnotized.
I was in another world, the world of 20,000 girls
and milkman rectangles.
Two optometrists.
A man with a golden eyeball.
And tight nail buttocks.
Or juice on your chin.
And I promised my girlfriend I could
play the violin.
Frontier Psychiatry. Frontier Psychiatry.
That boy needs therapy.
Psychosomatic.
That boy needs therapy.
You're psychosomatic.
That boy needs therapy.
Lie down on the couch.
What does that mean?
You're a nut. You're crazy in the coconut.
What does that mean?
That boy needs therapy.
I'm gonna kill you.
That boy needs therapy.
Brannigazoo, let's have a chew. I will not count three.
That boy needs therapy.
He was white as a sheep.
And he also made false teeth.
Other than a person.
A bird?
Yeah.
Sometimes a parrot talks.